Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonne année 2016. J'espère que vous allez bien. Un plaisir de vous retrouver, Marianne Paquette, au micro. Évidemment, j'ai envie de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé. Ça va de soi. Mais également, parce que l'on me demandait ça, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2016? Ben moi, c'est la concrétisation d'un projet. Et ça peut être à peu près n'importe quoi. Hein. Et je vous souhaite ça à vous aussi. Hein. Un projet, ça peut t'apprendre à tricoter, ça peut avoir un bébé, ça peut être la réalisation d'un grand voyage dont on a envie depuis longtemps. À peu près n'importe quoi, c'est-à-dire la réalisation de soi, c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, on débute l'année d'une façon peut-être un petit peu sérieuse parce que au cours de l'émission, on abordera deux sujets qui touchent des questions d'éthique. Tout à l'heure, Bernard Lavallée, lui qui est nutritionniste, nous parlera du saumon génétiquement modifié qui pourrait se trouver éventuellement sur les tablettes des supermarchés américains parce que la Food and Drug Administration, et ça c'est aux États-Unis, a approuvé en novembre dernier la consommation de ce poisson-là pour les humains, pour les consommateurs. Donc, est-ce qu'il y a des risques pour la santé, notre santé? Est-ce qu'il y a des risques pour l'environnement? On en saura davantage tout à l'heure avec Bernard. Et puis, sûrement que vous avez entendu parler dans les dernières semaines de la loi québécoise concernant les soins de fin de vie qui est entrée en vigueur le 10 décembre dernier, suite quand même à certains rebondissements, à certains revirements de situation un peu complexes. Et c'est normal parce que ça suscite des craintes, ça suscite également beaucoup de questions, autant sur le plan juridique que sur le plan de l'éthique, notamment pour le personnel soignant, les médecins. Et l'un des principaux volets de cette loi est la mise en place de directives médicales anticipées. Qu'est-ce que c'est que ça? On en parle un instant avec Dr. Yvette Lajeunesse, elle qui est médecin de famille. Elle travaille au programme des soins de longue durée à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et est responsable de l'enseignement de l'éthique aux pré-gradués à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Docteur Lajeunesse, bonjour.
Bonjour.
Bonne année 2016.
À vous également et à tout le monde.
On vous souhaite quoi?
De la santé.
Ah oui, voilà.
Comme pour tout le monde.
Docteur Lajeunesse, la loi, cette loi dont on a entendu énormément parler, on peut l'appliquer là maintenant et ce depuis le 10 décembre. Les médecins peuvent le faire. Évidemment, l'aide à mourir, ça s'adresse à des patients qui ont certains critères, là, soit des souffrances intolérables, il faut en faire la demande, il faut répondre quand même à certains critères, dont des souffrances, là, je pense, intolérables. Mais également, il faut pouvoir avoir déjà des directives médicales anticipées. Est-ce que ça fait partie, c'est-à-dire si l'on demande ça à son médecin, il faut déjà que ça soit prêt?
D'accord. Alors, je préciserai certaines petites choses. Premièrement, la loi 2. Le titre de la loi 2, en fait, c'est la loi concernant les soins de fin de vie. Mm-hmm. Donc, ça concerne beaucoup plus que l'aide médicale à mourir. Mm-hmm, mm-hmm. Et ça, je pense que c'est un élément qui a été un petit peu oublié à travers toutes les discussions, toutes les documentations qui sont parues dans les journaux. On a beaucoup insisté sur l'aide médicale à mourir, mais la loi 2 concerne aussi les soins palliatifs. Mm-hmm. Elle concerne l'arrêt ou le non-début des traitements. Elle concerne aussi la sédation palliative, y compris la sédation palliative terminale. Et en fin de compte, l'aide médicale à mourir. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est un tout petit volet.
C'est un volet de cette loi que l'on appelle les soins de fin de vie.
Concernant les soins de fin
d'accord.
de vie.
D'accord. Mm-hmm.
Et un élément principal aussi qui a été également un peu oublié, c'est que cette loi-là, dans cette loi-là, on retrouvait justement la création d'un registre des directives médicales anticipées. Mm-hmm. Et ça, c'est un point crucial, je dirais, dans cette loi-là. Et vous mentionnez comment qu'est-ce que c'est ce concept-là de directive médicale anticipée? Je dois dire en premier que le concept de directive médicale anticipée n'est pas venu avec la loi 2. C'est un concept qui existe depuis fort longtemps. La loi 2 n'a fait que baliser, je dirais, la notion de directive médicale anticipée. En fait, il y a trois éléments principaux qu'on retrouve par rapport aux directives médicales anticipées dans la loi 2. Premièrement, ça consiste en un formulaire précis qui a été, je dirais, concocté par plusieurs personnes. Donc, c'est un des premiers éléments. Le deuxième point, c'est la création du registre directives médicales anticipées.
Okay.
Donc, antérieurement, on pouvait faire des directives médicales anticipées, mais il n'existait pas de registre à cet effet.
Mm-hmm.
Et le troisième point, c'est que ce formulaire-là est un formulaire spécifique. Et donc, en fonction de ces directives médicales anticipées, on doit utiliser uniquement ce formulaire.
OK. Lorsque vous dites, Dr Lajeunesse, que ça existe depuis fort longtemps, est-ce qu'il y a un lien à faire avec le mandat en cas d'inaptitude?
Il y a un lien à faire, entre autres, avec le mandat et l'inaptitude, mais plus loin que ça, on peut penser au testament de vie ou au testament biologique.
Ah, oui, oui.
Qui sont également des directives médicales anticipées qui ne sont pas reconnues d'un point de vue légal. En fait, la grande différence entre un testament biologique ou testament de fin de vie et les directives médicales anticipées selon la loi 2, c'est que les premières, testaments biologiques ou testaments de fin de vie, ne sont pas, ici au Québec, entre autres, elles ne sont pas légalement reconnues.
Mm-hmm.
Alors que le formulaire des directives médicales anticipées, non seulement il est reconnu par la loi, mais il a préséance sur toute autre directive qu'une personne aurait pu émettre à ce moment-là.
OK. C'est donc, un des points si on importants. A inscrit quelque chose dans notre testament, puis par la suite, on s'est fait des directives médicales anticipées, bien, ça va compter davantage.
Si on a complété formulaire précisé par le gouvernement, par le ministère de la Santé, ce sont ces directives médicales anticipées qui vont avoir préséance par rapport à ce qu'on aurait pu écrire dans notre mandat en cas d'inaptitude ou encore dans le testament biologique ou le testament de fin de vie.
Et ce formulaire, on l'obtient de quelle façon?
Le formulaire, il suffit d'appeler à la Régie d'assurance maladie du Québec.
OK.
Tout simplement pour avoir accès aux documents. Pour ceux qui peuvent aller sur Internet, vous inscrivez formulaire directive médicale anticipée. Ça va vous amener sur un site où on vous donne toutes les coordonnées de la RAMQ, qu'on soit à l'extérieur de Montréal, qu'on soit à Montréal, etc.
OK. Et c'est... Bon, et de quelle façon, par la suite, on peut le faire valider par ce registraire-là? Okay. Est-ce qu'il suffit de le réenvoyer?
Oui. Alors, donc, quand on téléphone à la RAMQ, la personne prend nos coordonnées et nous envoie un formulaire qu'on doit à ce moment-là remplir, compléter. Une fois que le document est complété, il y a plusieurs possibilités. Je vais recommencer. Il y a deux possibilités pour compléter, d'ailleurs, le formulaire.
Mm-hmm.
Je peux le compléter à la maison avec deux témoins, tout simplement. Okay? Ou je peux aussi aller chez un notaire pour remplir ce formulaire-là. En fait, le notaire, lui, va l'inscrire en minutes, mais il a l'obligation de faire correspondre ce qu'il va écrire à ce qui est inscrit sur le formulaire. Donc, ça demeure les mêmes éléments qui vont être inscrits, que ce soit fait chez le notaire ou que ce soit fait à la maison.
Mm-hmm.
Une fois que le formulaire est complété, si on le fait à la maison, on devrait le retourner à ce moment-là à la RAMQ pour qu'il soit inscrit dans le registre, pour qu'il soit déposé dans le registre. Une autre possibilité aussi, mais les deux choses peuvent être faites, on peut le remettre aussi à son médecin pour qu'il le mette dans le dossier médical.
Mm-hmm.
Certaines personnes vont dire, oui, mais ça, c'est compliqué parce que oui, d'accord, je peux le remettre à mon médecin, à son bureau, il va avoir une copie. Mais à l'hôpital, ils n'en auront pas de copie. Donc ça, il y a un petit élément sur lequel je reviendrai plus tard pour vous dire que même si j'ai déposé mon document au bureau du médecin, le médecin, si je me retrouve dans une situation qui m'amène à l'urgence, le médecin à l'urgence aura quand même accès à ce document-là.
Vous
Et
parle...
donc, c'est pour ça qu'il faut l'envoyer au registre de la RAMQ.
Vous parliez tout à l'heure de témoins. Souvent, bon, on va demander aux membres de notre famille, est-ce qu'il est important de faire lire ces directives aux membres de notre famille afin de, bon, qu'ils les fassent respecter ou qu'ils soient d'accord? Est-ce que ça peut arriver dans certains cas que des membres de notre famille s'opposent à nos directives?
D'accord. Alors, la chose que je dirais aux gens, lorsqu'ils auront à compléter ou lorsqu'ils voudront compléter ce formulaire-là, c'est de ne pas le faire en secret dans leur petit coin.
Oui.
D'accord? Parce que ce sont des directives vitales, c'est le terme, c'est le cas de le dire. Et c'est très important que la famille soit au courant de ce que l'on veut. Pas parce qu'ils auront à défendre ces positions-là, parce que, comme j'ai dit, la directive, le formulaire devient obligatoire à respecter, mais pour que les gens autour sachent qu'est-ce qui se passe. Mais aussi parce que ce sont des décisions difficiles. Je dois dire, est-ce que je veux ou non être animée? Est-ce que je veux ou non avoir une alimentation artificielle ou une alimentation forcée ou non? Ce ne sont pas donc des décisions faciles à prendre et je pense que d'échanger avec nos proches, c'est une très, très bonne pratique. Je dirais même un petit peu plus loin, d'échanger avec votre médecin.
Oui.
Parce que comme ce sont des décisions, vous savez, comme médecin ou comme infirmière, on peut avoir une idée assez précise de ce qui se passe, mais comme individu, même dans ma famille, lorsque je parle de certaines choses avec mes frères, mes sœurs qui ne sont pas du domaine de la santé, oui, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça va donner, ça, comme effet? Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ça serait important d'en parler avec son médecin pour savoir à quoi il faut que je m'attende si je dis « je ne veux pas telle la réanimation » ou « je ne veux pas de gavage », par exemple. Oui. Donc, je pense
question
que c'est très important.
Question difficile, docteur Lajeunesse, parce que ces directives-là nous amènent à s'interroger sur nos valeurs, à repenser notre éducation. Ça peut bouger énormément. J'imagine prendre le temps de s'asseoir et d'y réfléchir.
Tout à fait. C'est très, très important. C'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Je reçois mon formulaire et puis je m'installe sur la table puis j'écris « oui, non, oui, non ». Je pense que ça demande une réflexion beaucoup plus poussée. En fait, je dois aussi mentionner qu'une des caractéristiques de ce formulaire-là, c'est qu'il comporte 3 situations cliniques en rapport avec 5 traitements. Et donc, ça ne porte pas sur tous les traitements médicaux et sur toute situation clinique qui pourrait se présenter. Les 3 situations cliniques sont, par exemple, si je me retrouve effectivement en soins de fin de vie, c'est-à-dire proche de la mort. C'est ce que ça veut dire, soins de fin de vie, c'est d'être proche de la mort. La deuxième situation qui est décrite dans le formulaire, c'est pour les patients qui sont en coma, entre autres les patients qui sont en coma végétatif, donc pour des périodes très, très longues. Et la troisième situation clinique, c'est la situation où les gens ont une atteinte neurovégétative sévère, comme par exemple les maladies d'Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique. Et donc, le formulaire n'adresse que ces 3 situations cliniques.
Mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Et c'est pour ça que le testament de vie ou le testament biologique ou encore les inscriptions que je pourrais faire dans mon mandat en prévision de mon inaptitude vont déborder ces 3 situations-là, peuvent déborder ces 3 situations-là.
Oui.
J'avais mentionné aussi qu'il y avait 5 traitements qui étaient mentionner, donc, il y a la réanimation cardio-respiratoire, il y a d'être mis ou non sur un respirateur artificiel, l'utilisation de l'hydratation artificielle, de l'hydratation et de l'alimentation artificielle, et également l'utilisation de l'hydratation et de l'alimentation forcée.
Mm-hmm. Je me dis, et on en parlait tout à l'heure avant que l'émission débute, ça s'adresse, ces directives, à des gens de tous les âges. C'est-à-dire qu'on ne commence pas nécessairement à y penser un petit peu plus tard en la vie, lorsqu'on se dirige vers la fin de notre vie, justement.
Non, effectivement, parce que malheureusement, il y a des gens plus jeunes qui ont également des atteintes, entre autres des maladies neurologiques dégénératives comme la sclérose en plaques. Mm-hmm. Ou encore, on ne le souhaite pas à personne, mais on peut être toujours victime d'un accident et de se retrouver avec un traumatisme crânien sévère qui entraîne un coma dans lequel, duquel on ne sortira pas. Mm-hmm. Donc, on peut, à ce moment-là, anticiper par la voie de ce formulaire-là les conditions dans lesquelles on voudrait ou ne voudrait pas être maintenu en vie.
Si demain, je rédige ces directives médicales anticipées et que dans 20 ans, je change d'avis, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est vraiment dans le béton, ces directives-là, ou ça peut se modifier?
Non, les directives médicales anticipées, de toute nature qu'elles soient, se modifient, y compris les directives médicales anticipées liées à la loi concernant les soins de fin de vie. L'important, c'est de savoir que si je veux modifier mes directives médicales anticipées, je dois refaire un formulaire.
Ah oui, OK. Mm-hmm.
Au complet. Donc, je dois appeler à nouveau à la RAMQ, leur demander un nouveau formulaire que je complète et que je signe et que je retourne à ce moment-là à la RAMQ pour mettre au régime. Et ce nouveau document-là va effectivement annuler l'ancien formulaire.
D'accord.
C'est sûr que si la situation se produit de façon urgente, j'ai un accident, je me retrouve à l'urgence. Je n'ai pas le temps de signer un nouveau formulaire. Et à ce moment-là, dans ces conditions-là, on peut verbalement modifier nos directives médicales anticipées, mais c'est seulement, uniquement dans cette condition-là d'urgence qu'on pourrait le faire.
En terminant, Dr. Lajeunesse, qu'est-ce que ça changera, cette loi, les directives médicales anticipées également, pour les médecins, pour le personnel soignant?
Le médecin, lorsque on reçoit une personne à l'urgence qui est incapable de donner un consentement, il a l'obligation de vérifier à la RAMQ si la personne a effectivement signé des directives médicales anticipées, et ces directives-là l'obligent. C'est-à-dire que le médecin est lié par le formulaire en question à répondre aux demandes du patient qui se présente.
Mm-hmm. Est-ce que, selon vous, c'est une plus grande responsabilité? Est-ce que ça modifie la relation patient-médecin?
C'est une plus grande responsabilité dans le sens, effectivement, où il y a une étape de plus de vérifier l'existence de ces documents-là. Par ailleurs, la relation avec le médecin est également un petit peu modifiée dans le sens que les échanges... Bon, dans la situation que je présentais, le patient n'étant pas conscient, on a une idée plus précise. Mais des fois, certaines conditions font qu'on s'interroge sur, effectivement, est-ce que le patient qui a demandé d'être réanimé, par exemple, alors qu'on constate que la situation est tout à fait désespérée.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, les médecins peuvent avoir certaines interrogations par rapport aux conditions dans lesquelles ces documents-là ont été signés.
Vous commenciez l'année avec nous, Dr. Yvette Lajeunesse, sur un sujet quand même assez costaud, disons-le, mais merci beaucoup pour cette présence. Et on a réussi, je pense, à démystifier un des volets de cette loi concernant les soins de fin de vie. Et on en reparlera le 14 janvier avec Dr. David Lucier, qui présentera une conférence gratuite, oui, sur la loi sur les soins de fin de vie et l'aide médicale à mourir. Conférence du 14 janvier avec Véronique Yvon également. Ce sera du côté du Centre de promotion de la santé Avantage. D'ailleurs, pour en savoir davantage sur leur programmation 2016, iugm.qc.ca/avantage ou encore sur Facebook. Beaucoup de formations, beaucoup de conférences. Vous en avez offert une d'ailleurs assez récemment, Dr. Lajeunesse, et des ateliers aussi, donc extrêmement diversifiés pour tous les goûts et ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Dr. Yvette Lajeunesse, très bonne année à vous. Merci beaucoup pour cette présence.
Merci beaucoup.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bernard Lavallée, bonne année!
Bonne année!
Vous allez bien?
Ça va très bien, vous?
Ça va très bien. Toutefois, le temps file, je dois l'avouer. Je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder ce sujet qui me fascine. Et je le disais tout à l'heure, c'est la première fois... Ben, en fait, ce n'est pas tout à fait ça que j'ai dit, mais c'est la première fois qu'un animal modifié génétiquement est approuvé pour la consommation humaine suite à l'approbation, et c'est ce que je mettais en contexte tout à l'heure, de la FDA aux États-Unis, donc le saumon génétiquement modifié. Je tiens quand même à dire d'entrée de jeu, Bernard, que les Canadiens n'ont pas à s'inquiéter. Là, ça se retrouvera pas immédiatement dès demain dans nos supermarchés à nous?
Bien, pour le moment, non. Santé Canada n'a pas encore approuvé la commercialisation du saumon génétiquement modifié au Canada. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au Canada que ce saumon-là est produit. En fait, la compagnie est basée donc au Canada et c'est là que les œufs sont produits. Donc, c'est certain que la compagnie va faire tous les efforts possibles pour être capable de commercialiser éventuellement le poisson ici.
Oui, à l'île du Prince-Édouard, hein, pour être plus exact. Ça répondait à quel besoin, dans quel but on a voulu créer ce poisson-là?
Alors, le saumon de l'Atlantique, en fait, tout d'abord, il faut savoir que c'est une variété de saumon. Donc, on parle souvent du saumon de l'Atlantique, mais ça ne veut pas dire qu'il va nécessairement vivre dans l'Atlantique ou grossir dans l'Atlantique. C'est vraiment une espèce de saumon. Ce poisson-là, c'est une des espèces les plus élevées donc dans le monde. Mm-hmm. C'est une espèce qui est très populaire, qu'on consomme beaucoup. Au Canada, aux États-Unis, c'est très populaire. Et donc, la compagnie qui a développé le saumon génétiquement modifié a inséré donc dans la génétique de ce saumon-là des gènes de deux autres poissons qu'on appelle donc la loquette d'Amérique et une autre espèce de saumon. Et ce que ça fait d'avoir inséré ces deux gènes-là, c'est que le saumon va être capable de grossir deux fois plus vite qu'un saumon normal, donc un saumon d'Atlantique normal. Et donc, pour l'industrie, c'est super avantageux. Si on a des poissons qu'on est capable de faire grossir deux fois plus vite, évidemment, ça amène plus de profit. Et donc, quand on me demande quel était le but ou quel était l'objectif ou les besoins que ça allait chercher, bien, c'est le besoin de faire de l'argent pour l'industrie carrément.
Oui, Aqua Bounty, c'est la compagnie concernée, nous dit c'est un poisson savoureux, il n'est pas dangereux, il est aussi nutritif pour la consommation humaine. Est-ce qu'on peut croire ces affirmations-là?
Bon, alors c'est certain que quand on parle des OGM, souvent les consommateurs ont peur. C'est un terme dont on ne sait pas trop comment ça a été fait, etc. Il y a eu beaucoup de campagnes qui faisaient peur. Bon, la réalité, c'est que les OGM ne sont pas nécessairement néfastes pour la santé. Donc, le fait qu'on ait fait des modifications génétiques, ça ne va pas avoir un impact nécessairement sur notre santé. Du moins, les études qui le démontrent en ce moment, dans le fond, n'ont pas trouvé de méfaits sur la santé simplement parce que ça avait été génétiquement modifié. Donc, d'un point de vue de la santé, c'est vrai qu'on n'est pas capable de faire de différence entre un saumon génétiquement modifié et un saumon de l'Atlantique qui est normal. Par contre, c'est d'un point de vue environnemental où là, il y a beaucoup de critiques qui surgissent et avec très bonne raison. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc les œufs donc de ce poisson-là sont faits au Canada. On les transporte ensuite jusqu'au Panama pour qu'ils puissent grossir. Donc, c'est là qu'on va être capable d'élever ces poissons-là dans des élevages sur terre. Et ensuite, donc aux États-Unis, là où c'est permis, on les fait revoyager jusqu'aux États-Unis. Et donc, parmi les craintes, c'est que des œufs pourraient malencontreusement s'échapper, donc être introduit dans la nature, donc vraiment par des catastrophes, par une erreur ou peu importe, par un accident, et que ces saumons-là, qui sont donc qui grossissent deux fois plus vite, bien, soient beaucoup plus compétitifs avec les bancs de saumon et d'autres poissons sauvages, et donc puissent nuire à la biodiversité. Oui. Et donc, c'est une des conséquences, en fait, une des peurs des groupes environnementaux présentement, c'est vraiment ça, c'est que ces saumons-là sont introduits par erreur et qu'ils nuisent à la biodiversité.
J'imagine aussi qu'au-delà de la biodiversité, ça pourrait avoir un impact sur l'industrie de la pêche, les pêcheurs qui ont une façon de faire. Et là, tout d'un coup, ce poisson-là arrive sur le marché et bon, ça déboussole ou en tout cas, ça débalance là, la façon de faire.
Bien, en fait, jusqu'à présent, donc le saumon de l'Atlantique, c'est vraiment un saumon qui est élevé. Donc, si vous trouvez du saumon de l'Atlantique au supermarché, c'est sûr qu'il a déjà été élevé. Donc, c'est pas des pêcheurs qui sont allés.
Ouais, okay.
Donc, dans ce cas-là, ça va pas être une compétition nécessairement pour les pêcheurs. Par contre, quelque chose qu'on ne pense pas habituellement, c'est que le saumon, c'est un poisson qui est carnivore. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que pour être capable de nourrir, il faut qu'on aille pêcher d'autres poissons. Et en ce moment, pour être capable de faire grossir notre poisson de façon normale, on doit donner, donc, pour un saumon de 2 livres, donc le poids qui est commercial, si on veut, on va devoir donner 6 livres de petits poissons à notre saumon. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit pêcher plus pour être capable de produire moins de poissons. Dans le cas du saumon génétiquement modifié, oui, on est capable de diminuer un petit peu l'alimentation, mais pas de moitié. Donc, même si le poisson grossit deux fois plus vite, il va quand même falloir lui donner plus de nourriture. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça reste un poisson qui, d'un point de vue de la durabilité, n'est pas intéressant parce qu'on continue à aller pêcher plus de poissons dans l'océan, à mettre plus de pression sur les bancs sauvages pour être capable de produire moins, simplement parce que nous, comme Canadiens, comme Américains ou peu importe, on aime le saumon de l'Atlantique et pas les autres poissons.
Oui. Ça aurait été vraiment intéressant d'en parler plus longuement, Bernard, mais en même temps, on va surveiller ça de près parce que si ça arrivait sur nos tablettes ici au Canada, ben, on aurait l'occasion d'en reparler. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible éventuellement?
Je crois que oui, c'est dans la possibilité, c'est certain. La compagnie, en tout cas, travaille pour faire rentrer ça au Canada.
Oui. Ça me fait un petit peu peur, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bernard Lavallée pour vous suivre, nutritionnisteurbain.ca. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est là jusqu'à jeudi, nous. Et puis, ben, en rediffusion à 17h. C'était Marianne Paquette, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.